Aujourd'hui, on va étudier Colossiens chapitre 2. Alors, pour de vrai, j'aurais eu aussi envie qu'on lise le chapitre 1. Je me suis dit, peut-être qu'après, ça fait un peu long, mais c'est pas grave, parce que la première mission que je vais vous donner ce matin, c'est quand vous rentrez chez vous, de lire le chapitre 1 de Colossiens. Chapitre 1 de Colossiens, c'est magnifique. C'est Paul qui donne une des plus belles descriptions de qui est Jésus et de son œuvre. On appelle d'ailleurs ce texte un hymne à Christ, et c'est pas pour rien. Alors je vous invite vraiment à le lire, et puis aussi sachez que le prochain atelier biblique va justement étudier Colossiens chapitre 1. Donc si jamais vous avez l'occasion, allez-y aussi approfondir ce texte qui est fondamental. Mais nous, on va s'intéresser à ce qui se passe juste après. Après avoir établi qui est Jésus dans sa dimension cosmique presque, Paul va parler de concrètement qu'est-ce que ça veut dire être en Christ et qu'est-ce que ça doit changer. Alors je vous propose d'abord de nous arrêter sur les chapitres 8 à 10. Je vous les relis juste pour mémoire. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, la première question que je me suis posée, mais c'est à quoi est-ce que Paul fait référence? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de philosophie, de vraine tromperie, de tradition des hommes? Alors il faut savoir que Colosse à l'époque, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un foisonnement d'idéologies et de courants de toutes sortes qui se croisent, s'entrecroisent, se mixent, se mélangent. Alors vous avez bien entendu des juifs qui sont donc très attachés à la tradition, au respect des fêtes, au respect des règles, mais vous avez aussi justement l'influence des philosophies grecques avec leur vision aussi, la raison, le corps. Et vous avez aussi des courants qui naissent comme l'ascétisme, par exemple. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'ascétisme. Être un ascète, c'est quand on veut maîtriser le corps. Donc on prive le corps de plein de choses en se disant que peut-être comme ça, on arrive à avoir le contrôle dessus. Et puis vous aviez aussi certaines formes un peu mystiques comme ça, il parle du culte des anges par exemple, des choses qui se développaient un peu dans ces milieux-là à l'époque. Et donc c'est dans cette espèce de bouillon de culture que c'est un peu ça le contexte dans lequel Paul écrit aux Colossiens et leur dit de se méfier de toutes ces influences. Et ce qui est très intéressant, c'est que Paul il prend pas chaque mouvement, chaque tradition pour dire « alors celui-là, il pense ça, mais c'est faux parce que la Bible dit que ceci, que cela ». Il met tout dans un même paquet et il donne une solution qui est la même. Il leur dit « il faut s'attacher à Christ parce que Christ est suffisant et en lui réside toute la vérité ». Le passage qui dit « car en lui habite toute la plénitude de la divinité ». Ça veut dire que en Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose ailleurs. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Ce n'est pas « ah, il y a Christ, mais il faudrait peut-être un peu de philosophie ou un peu de ceci, un peu de cela ». Non. Christ est autosuffisant. Il y a toute la révélation de qui est Dieu dans Christ. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Et cet appel, bien entendu, qui est fait aux Colossiens à l'époque, il est pour nous ce matin. Il est pour nous parce que, je l'ai dit, aujourd'hui, on vit dans un monde qui, je pense, est encore 10 fois plus complexe que celui de l'époque des Colossiens. Des idéologies, des mouvements, des mouvements politiques, des mouvements psychiques, enfin, tout ce que vous voulez, il y en a tellement, tellement, tellement aujourd'hui. On vit à l'époque des influenceurs. Est-ce que vous savez ce que c'est un influenceur ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens principalement sur Internet qui, dans plein de domaines de la vie, ils se disent un peu spécialistes ou références. Par exemple, la mode. Vous avez une personne qui se montre tous les jours comment elle s'habille et on se dit « ah, on peut s'inspirer de cette personne pour lui ressembler ». Il y en a dans tous les domaines. L'éducation des enfants, la nourriture, le sport, j'en passe. Mais c'est le monde dans lequel on vit. des influenceurs. Donc des influences, il y en a des tonnes. Mais Paul, il nous rappelle ceci, c'est que nous, il y a une seule source qui doit nous influencer, c'est Christ. Et si nous sommes chrétiens, ou si vous vous dites chrétien, eh bien, votre seule source d'inspiration et d'influence, ou en tout cas la principale et de loin, devrait être Christ. C'est lui qui devrait être votre modèle. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec ces drames qu'il y a avec les autorités. Il se trouve que moi, je suis un petit peu, notamment dans les milieux chrétiens, j'essaye d'écouter un peu ce que disent les chrétiens américains, un peu des deux côtés, si on veut bien, de la discussion, du débat, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et ce qui m'attriste, c'est de voir, déjà quand vous voyez des chrétiens qui s'attaquent, c'est toujours triste, c'est toujours dramatique. Au final, voilà, tout le monde en ressort amoindri. Mais ce qui me choque, c'est que peu importe le côté, peu importe ceux qui s'indignent ou ceux qui tentent de justifier, quand vous écoutez ce qu'ils disent, ce que vous entendez, c'est d'abord vraiment leur parti politique. On sent derrière l'idéologie politique, on sent la culture dont ces gens viennent, on sent aussi les idéologies qu'il y a aux États-Unis actuellement. Et puis là-dedans, au milieu de tout ça, ils essayent encore de ramener Dieu et la Bible et de dire « oui, mais si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait ?» etc. Et au final, le message qui reste, c'est quelque chose qui ressemble plus à grand-chose. C'est tellement mélangé, c'est tellement mixé avec d'autres choses qu'à la fin, il reste plus grand-chose. Et vraiment, quand je lisais ce texte, pour moi, c'est vraiment ça que Paul dénonce et c'est ça que Paul nous dit de se méfier. C'est-à-dire que, bah oui, les influences, on en a, mais nous, notre influence première, ça ne doit pas être nos partis politiques, ça ne doit pas être des idéologies, ça ne doit pas être ce que dit tel ou tel influenceur, mais ça doit être ce que Christ nous dit et ce que Christ a fait pour nous, surtout. Alors, vous allez me dire, et vous avez raison, Yvan, c'est bien joli, on a compris, il faut être en Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être en Christ ? C'est une très bonne question. Et je vous invite à relire les versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Franchement, ça, c'est le genre de verset qu'il faudrait faire des cartes postales avec, qu'il faudrait peindre sur les façades des églises. Je les vois malheureusement pas souvent, mais voilà, c'est en quelques phrases le résumé du salut. C'est en quelques phrases le résumé de notre réalité et de ce qui a changé nos vies. C'est là, en quelques versets, vous avez la définition même de notre raison de vivre en tant que chrétien. Alors, être en Christ, pour moi, c'est une des choses que je vous propose, c'est beaucoup de choses, mais c'est se souvenir d'où nous venons. Et cette image que Paul utilise, elle est très très forte et elle est très très belle. Et je pense que c'est vraiment des versets qu'il faut lire, qu'il faut relire presque tous les jours. Rappelez-vous, votre destin, avant de connaître Christ, c'était de naître, de vivre et de mourir, point final. C'est tout. Sans espoir, sans but, livré à vous-même. C'était ça. C'était ça, c'est de là qu'on vient, c'était ça notre destin. Et même, et cette image est belle, on était tous condamnés à mort. Il y avait un jugement, c'était écrit, Yvan Souza, pour liste de tous mes péchés, et condamné à mort, signé le juge. Il y avait vraiment, c'était ça ma réalité, c'était ça votre réalité. Et Jésus est venu, et il a pris cet acte et chlac. Il l'a déchiré, il l'a jeté au loin. Et encore mieux que ça, non seulement il a déchiré l'acte où c'était vraiment écrit qu'on était condamné, mais en plus, il a viré le juge et il a pris sa place. Le verset dit, hein, il a ensuite pris voilà, les autorités, hop, et c'est lui à la place. Donc non seulement il n'y a plus d'acte de condamnation, mais en plus il n'y a plus le juge qui nous avait condamnés, et il y a Jésus à la place. Ça, c'est de là où on vient. Et c'est pour ça que ces versets sont tellement importants. Et je suis toujours frappé, quand je vais en Angleterre voir ma sœur et qu'on va à l'église, à chaque culte, il y a toujours un moment où le message de l'évangile est annoncé, simplement. Ça peut être au début, à la fin, des fois c'est dans la prédication ou pas, mais il y a toujours un moment où quelqu'un rappelle très simplement le sacrifice de Jésus à la croix et ce que ça change. Alors bien entendu, c'est pour que si quelqu'un est dans la salle et n'a jamais entendu ce message, il l'entende, mais c'est aussi parce que c'est tellement important pour nous de se le rappeler. Il y a une forme de, je ne sais pas si c'est du cynisme, mais il y a quelque chose quand même contre lequel on doit lutter, où on s'habitue à tout, et même à ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se le rappeler. Et être en Christ, c'est ça. Si on veut vraiment être en Christ, si on veut vraiment se laisser transformer, on a besoin de se rappeler d'où on vient. Et d'où on vient, c'est qu'on a eu chaud. C'est qu'on était à ça de mourir et que ce soit ça notre destin. Hein ? On est des rescapés, on est des rachetés, on est des gens graciés. Alors j'aimerais poursuivre et m'arrêter maintenant sur les versets qui sont plus à la fin du chapitre, les versets 20 et suivants, qui disent « Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'usage et qui ne sont fondés que sur les commandements et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur réelle et ne servent qu'à satisfaire la chair. » Et là encore, je trouve qu'à l'heure des influenceurs, ces versets ils sont quand même très forts et très d'actualité. Est-ce que vous savez quelle est la plus grande différence entre toutes les religions, les idéologies, les mouvements et le Christ ? La plus grande différence, c'est que toutes les religions, toutes les idéologies, tous les mouvements que vous pouvez entendre, connaître, ils vont vous toujours utiliser la même chose, ils vont vous dire « voici les règles que vous devez suivre, voici vers quoi vous devez tendre, et plus vous allez essayer de faire des efforts pour faire ça, et plus vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes comme ci et comme ça, si dans votre vie vous faites ça, alors vous correspondez à ça. » Mais la différence, c'est que Christ, lui, il est en nous. Et la transformation, elle se fait de l'intérieur. C'est pas on essaye d'appliquer des choses, on essaye de faire ça, de faire ci, et puis il y a un changement. Non, le changement, il se fait de l'intérieur. Et Christ nous transforme de l'intérieur. Et ce processus, c'est pour qu'il ait lieu et pour qu'il fonctionne, eh bien, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Cette transformation, elle prend racine dans ce que Christ a fait, dans cet acte d'amour ultime, ce sacrifice. Et ensuite, c'est bah, quelle est ma réponse à ça ? Quelle est ma réponse à cet amour ? Qu'est-ce que ça fait grandir en moi et qui me fait changer et qui me fait évoluer ? Alors, en lisant ces versets, mon premier réflexe, c'était d'essayer de discerner et de me dire mais de quoi il parle exactement, Paul ? Qu'est-ce que c'est ces principes ? De quoi il parle ? Comme ça, je peux dire à l'Église, à mon avis, il parle de ça, du coup, méfiez-vous et tout ça. Puis je me suis dit, mais en fait, Yvon, là, t'es exactement en train de faire ce que tu dis qu'il ne faut pas faire. Tu serais juste un influenceur. Tu serais juste en train de dire, moi, je pense que c'est ça et ça dont il faut se méfier. Alors, je ne vais pas le faire. Voilà. Mais à la place, je vais plutôt vous laisser des questions. Parce que c'est ce que Paul fait. Dans ce passage, il pose la question aux Colossiens et il dit, mais pourquoi ? Pourquoi, alors que tu as Christ et que tu vis en lui, qui vit en toi, pourquoi est-ce que tu te laisses encore influencer ? Pourquoi est-ce que tu laisses encore des pensées, des idées, te dire ce que tu dois faire ? Et vous, ce matin, j'aimerais nous laisser et vous laisser ces questions. Qu'est-ce qui m'influence, moi, aujourd'hui ? Quelles sont mes sources d'influence ? Alors, je vous rassure, ce n'est pas de la culpabilité, parce que vous pouvez pas vivre dans un monde sans influence, c'est pas possible. On ne naît pas et on ne vit pas dans un vide sidéral. C'est pas comme ça. Il y a forcément des influences. Vous êtes né dans une famille, vous avez été éduqué, c'est normal. Mais je pense que c'est important de se poser la question de temps en temps et de se dire, mais c'est quoi en fait qui influence le plus ma pensée tous les jours? Vous avez des amis, peut-être un conjoint, peut-être de la famille, encore des parents, peut-être même des enfants, un pasteur. Quels sont les gens qui ont le plus d'influence sur vous? Quels sont les gens que vous écoutez à tous les coups? Quels sont les gens qui, quand ils vous disent une idée, vous vous dites tout de suite « Ah ouais, je pense qu'il a raison ». Posez-vous la question et de se dire « Est-ce que cette influence est bonne ?» Et surtout, est-ce qu'elle ne prend pas trop de place par rapport à l'influence qui devrait être la première et qui est Christ? Alors voilà, vous avez deux missions pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair. La première, lire Colossiens chapitre 1, avant que le soleil se couche. Et deux, aussi avant que le soleil se couche, parce qu'on se connaît, sinon on va oublier. Prenez un moment aujourd'hui pour juste vous poser la question, vous dire, mais qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce qui m'influence? Peut-être que ça peut être aussi des lectures, j'en sais rien, moi, peut-être des influenceurs que vous suivez, je ne sais pas. Et vous dire simplement, ok, quelles sont les choses qui m'influencent aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'elles prennent plus de place que Christ dans ma vie? Et pour terminer, j'aimerais vous laisser simplement ces versets du début de ce chapitre qui disent « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » Je vais prier. Seigneur Jésus, si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, c'est uniquement grâce à toi. C'est uniquement parce que tu as décidé un jour d'envoyer ton Fils pour détruire, déchirer, clouer à la croix l'acte qui nous condamnait à mort. Et Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler aussi souvent qu'il est nécessaire que c'est de là que nous venons, que c'est le point de départ et que sans toi et sans ton sacrifice, eh bien, nous ne serions rien, nous irions nulle part. Et Seigneur, tu vois qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui circulent, beaucoup d'idées. Et Seigneur, c'est parfois compliqué au milieu de tout ça de rester attaché à toi et à ton message. Mais Seigneur, par ta grâce, vraiment, c'est notre prière ce matin, Seigneur, que tu nous aides à identifier, à peut-être aussi faire diminuer certaines influences dans nos vies. Et Seigneur, vraiment, viens prendre toute la place. Seigneur, nous voulons être en Christ. Nous voulons que tu sois le centre de nos vies, le centre de nos pensées, et nous voulons surtout nous laisser transformer et renouveler par toi. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen.